allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bien le bonjour, amis bons vivants. Très heureux de vous retrouver comme tous les samedis de 11h à midi et demi. La table des bons vivants est dressée pour vous. Conseils, bonnes adresses, sujets d'actualité, nous avons du bon pain sur la planche. Elle fait rimer bon goût et bon sens dans l'assiette. Eh oui, c'est vrai, la bonne vivante, Anne-Laure Femme, est attablée. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour à toutes et à toutes.
Comment ça va ?
Ça va très bien.
Eh bien, on est ravis. Il est des nôtres, il choisit les verres pour eux les autres. Docteur Esbonvin, Olivier Poul, c'est à cette table comme tous les samedis. Bonjour Olivier.
Eh bien bonjour Laurent et bonjour Anne-Laure et bonjour tout le monde d'ailleurs.
C'est bien, on est poli, c'est important, ça fait du bien en ce moment. Marion Sauveur rejoindra la tablée dans un instant pour le journal de la cuisine et Jean-Luc Petit-Renaud, vous entendrez, brossera le portrait d'un boulanger au grand cœur. Ça aussi ça fait du bien. C'est la pleine saison de l'endive, de la fourche à la fourchette, on vous emmène la récolter dans le nord avant de la cuisiner. Pas de cuisine française sans sauce, vous êtes d'accord ?
Non, bah,
évidemment.
Et alors ce samedi, nous allons passer en revue celles qui mettent en valeur de nombreux plats. De la béchamel à la béarnaise, en passant par la bohémienne, on va saucer avec le chef Éric Trochon, meilleur ouvrier de France. Et puis sur les coups de midi, nous partagerons le plat du jour avec une actrice bonne vivante, Mylène de Mongeau, sera avec nous. À table les amis. Et ben voilà un joli programme, menu varié, équilibré, il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les bourses, vous entendrez. Alors vous le savez, chaque samedi nous commençons par le goût de la semaine, ça peut être une adresse, une rencontre, un coup de cœur, une recette même qui a titillé notre palais cette semaine. On est galant dans cette émission, on va commencer par vous Anne-Laure Femme.
Alors moi ça va être le goût de l'argent. Je vous choque un petit peu volontiers.
On savait que l'argent n'avait pas d'odeur, mais il n'a pas de goût.
Vous êtes bien une fille. Tiens, je vais me prendre les filles.
Laurent, ça ne va pas du tout. Bon, allez, je me reprends. L'argent, c'est pourquoi ? C'est pour financer l'agriculture et l'alimentation de demain.
C'est bien.
Voilà, évidemment, je me rattrape joliment.
Tant mieux.
C'est-à-dire que sur des plateformes participatives comme Bluebees, B-L-U-E-B-E-E-S et Mimosa avec deux E, vous pouvez financer les paysans du coin à lancer ou relancer leur activité. Vous avez par exemple un apiculteur bio dans l'Aisne. Vous avez aussi un paysan basque qui cherche à construire une machine de traite écolo. Vous avez des projets vraiment très enthousiasmants.
Donc c'est pour des gens qui s'installent et qui sont déjà installés aussi alors ?
C'est les deux. Vous avez beaucoup de profils différents, beaucoup de néo-ruraux parmi ces profils-là.
Ah oui, alors c'est vrai que c'est la mode des cagnottes avec les chis, on en a entendu parler toute la semaine. Mais là, le crowdfunding, c'est différent en fait.
Le crowdfunding, soit vous avez une contrepartie et ou vous avez carrément un intéressement dans le capital. Donc vous êtes vraiment participatif. À tous les points de vue.
Redonnez le nom.
Bluebees et Mimosa, qui sont mes plateformes préférées de crowdfunding. Allez-y.
Merci Anne-Laure. Olivier Pouls, votre goût de la semaine, cher ami. Vous qui avez récompensé avec la Revue du Vin de France les hommes et les personnalités de l'année dans le monde du vin.
Oui, c'était cette semaine et on en parlera tout à l'heure d'ailleurs avec un grand coup de chapeau et une femme sommelière assez exceptionnelle. Alors moi, mon goût de la semaine, c'est un goût de cuisine fusion. Je ne suis pas toujours un grand fan de la fusion, mais là, il faut dire que c'est particulièrement réussi. Le restaurant s'appelle Uma. Le chef, c'est Lucas Felzi. Écoutez bien, il fusionne les saveurs venues de la cuisine française, ça c'est pas très original, mais aussi japonaise et péruvienne.
Ah oui.
Voilà, il a beaucoup voyagé, c'est ça. Et en fait, au fil du menu ou des plats, on va se balader avec des épices, avec des clins d'œil. Alors je pense par exemple aux tacos végétaux, clin d'œil évidemment à l'Amérique du Sud, très réussi, au gyoza, vous savez, ces petits
raviolis, c'est bon,
d'origine asiatique. Voilà, qui sont faits au canard. Et puis des lunchbox aussi remportés le midi pour une douzaine d'euros. Voilà, c'est un beau voyage. C'est de la belle cuisine fusion. C'est réussi. C'est dans le premier arrondissement, rue du 29 juillet à Paris.
Et redonnez le nom ?
Alors ça s'appelle Uma.
Très bien.
U-M-A.
Super, merci Olivier. Alors moi c'est le bouillon, mon goût de la semaine. J'ai eu un petit coup de froid, je voulais vous parler d'un restaurant qui m'a plu, mais figurez-vous que c'était un restaurant où il n'y avait pas de chauffage, donc j'ai chopé froid en mangeant dans ce restaurant, donc du coup je parle du bouillon que j'ai pris pour me réchauffer. C'est une marque qui s'appelle Bu, vous trouvez ça sur internet où c'est vendu en moyenne surface également, c'est entre 3 et 5 euros la bouteille. Je suis tombé sur un beau mélange de champignons, gingembre, et j'aime beaucoup parce que c'est le chef Éric Léauté, vous connaissez peut-être, qui a fait les grandes heures de Cuisine TV, qui est un chef rigoureux, pédagogue, très précis, qui fait ses recettes de bouillon. Donc c'est un gage de qualité quand Éric Léauté est là et je me suis vraiment régalé. Il n'est pas trop salé, il est bien équilibré.
Vous avez retrouvé la forme,
champignon, gingembre. Et j'ai retrouvé la forme, absolument. Ça, c'est le gingembre. Allez, c'est l'heure d'aller au marché, comme tous les samedis, après 11h, direction Cergy-Pontoise, un marché convivial et populaire où les légumes et fruits de saison sont à l'honneur. Navets, poireaux, carottes, pommes de terre, clémentines. Allons-y, messieurs, dames.
Bienvenue au marché, madame. Quel plaisir de vous voir.
J'ai acheté des clémentines, des poires, pamplemousse, avocat.
Des citrons, des haricots verts.
Des artichauts,
des dattes, des figues. Les légumes, ils sont pas chers, hein, ici.
La clémentine, mesdames, les 2 kilos à 3 euros.
J'ai acheté pommes, raisins, kaki. J'aime bien parce que je peux goûter avant d'acheter.
Des clémentines, un ananas et du kiwi.
Un livre.
Allez, toi, 1 euro. Faites-vous plaisir sans m'enrichir.
J'ai acheté des carottes, des poireaux, des poires et pommes.
Des tomates, des pommes de terre et puis des carottes.
La carotte se vend bien. Les épinards, c'est un peu plus cher, donc on en vend moins. Le chou-fleur, ça se vend, même si c'est un petit peu plus cher. Comme c'est des gens qui viennent de pays étrangers, donc ils ont ramené leurs habitudes culinaires. Donc on vendra de la tomate toute l'année.
J'ai acheté des pommes de terre, du banane, des clémentines.
Des épinards, des oranges, des clémentines.
Des navets, menthe et puis coriandre.
Des pommes parce que je vais faire le gâteau aux pommes. Céleri parce que je vais faire la macédoine polonaise.
Du potiron, des tomates. Je vais faire un curry vegan.
C'est moins cher dans le marché couvert. Allez, allez, allez.
Et c'est plus chaud dans le marché couvert aussi. Merci beaucoup, messieurs, dames. On a voyagé avec ce micro-trottoir sur le marché de Cergy-Pontoise. C'est vrai que c'est l'exception qui confirme la règle. On vient d'entendre que beaucoup de consommateurs cuisinaient des tomates en ce moment alors que ce n'est plus la saison. On peut comprendre quand on veut refaire des recettes de ses origines, de ses racines, effectivement, mais on peut aller aussi sur des coulis et des conserves de tomates.
Parce que la tomate fraîche, en ce moment, elle est vraiment pas bonne. Elle a
non,
pas goût.
Mais cuite, voilà, on peut dire que ça peut faire la
bon,
blague.
Bon, allez.
N'y revenez pas trop souvent, quand même. Hein, voilà, c'est ça. Allez, on revient dans un instant, nous, justement, avec un légume de saison. C'est l'endive. On vous emmène la récolter dans les Hauts-de-France et on va la cuisiner crue et cuite. A tout de suite sur Europe 1.
Comme tous les samedis, vous êtes invité à la table des bons vivants jusqu'à midi et demi. Une table où on s'intéresse aux légumes de saison, n'est-ce pas Laurent ?
Absolument Justine, chaque samedi, vous le savez, on passe à la casserole un produit de saison. Alors elle fait des ravages dans le nord de la France, mais pas besoin d'être ch'ti pour aimer les chicons. Ce week-end, on va passer l'endive à la casserole. C'est un légume qui laisse pas indifférent déjà. Tiens, on va faire le tour de la table. Anne-Laure Femme, vous aimez les endives ?
Je les adore crues. Mais cuite, j'ai un peu de mal, j'avoue.
Et,
voilà.
Et vous, alors, Olivier Pouls, le belge.
Moi, je suis né avec l'endive à la bouche. Bah, moi, j'ai grandi avec les endives, les chicons gratins de ma maman. C'était le plat, mais absolu. J'adore ça.
Alors, elle est peu calorique, elle est riche en eau. C'est vrai qu'en général, quand on l'aime crue, on ne l'aime pas cuite.
Inversement.
Mais vous aimez. Bah, moi aussi, je l'aime des deux façons. Alors, 90% des endives sont cultivées dans le Nord. Et ce qui est amusant, c'est que c'est une chicorée. Hein, l'endive, elle fait partie de cette famille des chicorées. Elle est comme vous, Olivier Pouls, née dans le Nord.
Elle est née
en Belgique.
Elle est née à Bruxelles, figurez-vous, dans les années 1830. Un peu par hasard, un paysan avait caché dans sa cave des plants de chicorée. Je crois qu'il voulait échapper à l'impôt.
Oui, c'est ça.
Et ces plants de chicorée ont donné cette espèce d'excroissance. Étant l'endive est née, il l'a goûté, c'était bon. Et un peu plus tard, le botaniste du roi s'y est intéressé. Et c'est vraiment par la suite que l'endive s'est popularisée et est arrivée. C'est un légume qui est né du hasard, qui n'a pas été pensé.
Et oui, puis alors, surtout, évidemment, vous l'avez compris, elle pousse à l'abri de la lumière. C'est ce qui fait qu'on a ces jolies feuilles blanches et puis cette belle amertume aussi. Alors, il y a deux façons de cultiver l'endive. En pleine terre, on a de plus en plus de mal à en trouver, mais vous allez voir qu'on en a trouvé. Et puis sinon, c'est ce qu'on appelle l'hydroponie, où elles sont cultivées hors sol, dans des substrats, effectivement, de paille et d'argile. C'est essentiellement la culture, mais c'est très bon. Hein. Voilà, on retrouve effectivement
la fraîcheur. Elles ont moins de texture et elles sont plus amères.
Elles sont plus amères que les pleines terres. Alors, on va goûter justement avec Marion Sauveur, qui a foulé la terre natale des endives dans les Hauts-de-France en compagnie d'Olivier Thomas. C'est le maraîcher de la ferme du Pont d'Achel dans le Nord, avec un bel accent comme on les aime. Allez, c'est parti, on cueille l'endive.
On est sous une serre, mais on cultive nos endives sous une couche. C'est une tôle ondulée qui est posée sur la terre et les racines d'endives poussent dessus pour donner notre fameux chicon.
Et cette tôle, elle protège du coup ces endives?
Voilà, parce que l'endive, il faut absolument qu'elle pousse dans le noir. C'est ce qu'on appelle encore l'endive de pleine terre. C'est une endive qui puise son énergie dans la terre. Nous, on a malgré tout une terre qui a un terroir, c'est une terre qui est relativement forte. L'endive est beaucoup moins amère. On a un produit qui est très gustatif et très bon.
Est-ce qu'on goûte justement cette endive ?
On peut goûter. On casse l'endive, donc on sectionne l'endive de sa racine. Et donc, en fait, on enlève les petites feuilles qui sont à sa base et qui sont moins jolies. Elle est bien ferme, elle est nickel, elle est prête à consommer.
Ça craque, hein.
Elle est croquante, elle est légèrement acidulée.
On a une pointe d'amertume, mais elle est légère, hein.
C'est comme ça que je l'aime et manger tout l'endive jusqu'au bout.
Moi j'aime bien les trognons, justement ça apporte de la fermeté supplémentaire.
Ouais, bah après ça c'est les goûts et les couleurs.
Mais oui, moi aussi Marion Sauveur, j'aime bien les trognons, c'est vrai qu'on aime tout. Alors l'amertume effectivement se concentre dans le trognon, c'est pour ça qu'en général on préconise de retirer avec un couteau bien aiguisé le petit cône qui se trouve à l'intérieur pour retirer l'amertume. Moi j'aime l'amertume personnellement de l'endive et on sent que c'est un légume qui fait du bien, elle est riche en eau et elle est bonne pour le foie. Faites des endives au jambon ce week-end. Oui Anne leur femme.
Une petite variante aussi dans la famille des chicorées, vous avez les différentes trévises qui sont très jolies pour leur couleur, oui. Rouge et blanche, ils sont magnifiques, vous en avez de plusieurs sortes. Et vous avez aussi un très étrange légume qui s'appelle la puntarelle, oui. Trop méconnu hélas,
italien.
Et qui a un peu une gueule de main d'extraterrestre qui se finissait par des spirales,
oui, c'est vrai.
Magnifique
on
braisé.
On dirait une main crochue un peu, et les Italiens aiment beaucoup ça, ces salades amères, parce
à
qu'elles
Venise,
font partie de leur
notamment.
Culture, ouais. L'amertume. Et redécouvrez l'amertume, cette saveur qui fait un petit peu peur. Alors je vous ai fait des endives au jambon.
Bah, merci.
Olivier.
Ah merci.
Il est aux anges. Alors,
c'est mon anniversaire aujourd'hui.
Ça vous va ou pas?
Mais elles me vont parfaitement parce que elles sont très bien cuites. Et c'est toujours un peu compliqué de cuire l'endive d'ailleurs parce qu'il faut qu'elle reste un peu ferme. Et alors, mais il ne faut pas qu'elle prenne d'eau non plus.
Je les aime al dente. Je les ai fait 10 minutes à la vapeur. Ce sont les endives de pleine terre qu'on vient de récolter avec Olivier Thomas. Elles ne sont pas amères.
Ah non, elles ne sont pas amères.
Donc ça, c'est agréable. Une belle tranche d'un bon jambon au-dessus. Et puis effectivement, une béchamel maison. On en reparlera tout à l'heure avec Eric Trochon des sauces. La béchamel, c'est un roux, du beurre et de la farine, du lait bien assaisonné. Vous recouvrez vos endives au jambon. Vous mettez ça au four pendant 25 minutes. À 220 degrés pour que ça gratine, un bon gruyère ou un bel emmental râpé par-dessus. On vous mettra la recette, mais effectivement, elles ne sont pas flotteuses comme ça.
Ah oui, hein, c'est très bon.
Ça vous plaît, Anne leur femme?
C'est parfait. Bah, moi-même, susceptique, bah, j'aime beaucoup.
Et bah, tant mieux. Alors, et aussi, pensez à l'endive coupée en quatre et revenue dans un petit peu d'huile d'olive pour accompagner, par exemple, un poisson, une viande blanche ou une Saint-Jacques. Et qu'est-ce qu'on boit, Olivier Pouls, pour accompagner une endive au jambon, par exemple?
Ça m'appelle une bière.
Ah oui,
vous m'intéressez.
Jolie bière. Ah ben oui. Le vin, c'est très compliqué parce que justement, cette amertume, c'est un peu destructeur pour les vins. Et là, justement, l'amertume d'une bière va nous donner quelque chose de très complexe. Alors, pas forcément une bière d'abbaye très puissante, hein, mais une blanche, par exemple, plutôt florale et plutôt fine.
Alors, c'est la saison, hein, vraiment, les amis, pour redécouvrir l'endive. Allez-y et ne restez pas sur des idées reçues de mauvais souvenirs de cantine ou de choses comme ça. Redécouvrez-la en version crue ou cuite. Ne bougez pas, on revient dans un instant, justement, pour passer en revue l'actualité de la planète cuisine avec Marion Sauveur et son journal. Et on va saucer, vous entendrez. A tout de suite sur Europe 1.
Si vous êtes bon vivant, vous êtes sur la bonne radio. Jusqu'à midi et demi, la table est dressée sur Europe 1 pour un moment 100% gourmand avec Laurent Mariotte et toute l'équipe.
Oui Justine, la confrérie des bons vivants se rassemble avec un bel appétit. Olivier Pouls et Anne leur femme sont avec moi. Et ils ont bien fini leur assiette, ils ont été bien élevés. Hein. Et nous retrouverons justement Jean-Luc Petit-Renaud dans quelques instants. Mais pour l'instant, justement, c'est l'heure d'accueillir Marion Sauveur. Bonjour Marion.
Bonjour à
tous. Bonjour Marion. Elle va bien Marion Sauveur?
Ben oui, très bien.
Eh bien c'est parti, les titres du journal de la cuisine.
Des nouveaux produits Label Rouge font leur apparition, la crème anglaise, la faisselle et le jambon cuit supérieur. Pascaline Lepelletier est la sommelière à suivre, elle vient d'obtenir le grand prix de la Revue du Vin de France. Et focus sur les guides gastronomiques, le Michelin vient de dévoiler la liste des bibes gourmands 2019 et Goemio vient d'être vendu aux Russes.
Alors, la crème anglaise, la faisselle, le jambon cuit supérieur obtiennent désormais le label rouge, Marion.
Et pour obtenir cette distinction, le jambon doit être uniquement fabriqué à partir de porc label rouge. Aucun additif ne doit être utilisé. Pour la faisselle, le label est apposé sur un fromage blanc réalisé avec du lait entier, moulé à la louche et à la main. Et la crème anglaise label rouge contient uniquement des ingrédients traditionnels, sans aucun ajout, que des gousses entières de vanille bourbon, fendues, infusées dans le lait, et des œufs uniquement issus de poules élevées en plein air.
Et ben voilà, comme quoi quand on veut, on peut hein, faire de bonnes choses à manger qu'on va trouver partout en France. Énorme bravo à Pascaline Lepelletier.
Elle a obtenu en octobre le titre de meilleure ouvrière de France en sommellerie. C'est la première femme à avoir été sacrée. En novembre, elle a été nommée première femme meilleure sommelière de France. Elle vient d'être désignée personnalité de l'année 2019 par la Revue du Vin de France et je l'ai rencontrée.
C'est incroyable parce que j'apporte ma petite touche, ma petite pierre à l'édifice du monde du vin, mais je crois que je ne réalise pas encore. Je suis fière en tant que femme si ça peut inspirer d'autres jeunes femmes à poursuivre leurs rêves. Donc je suis extrêmement heureuse, mais c'est vrai que ça fait un peu réel.
Alors pour découvrir son travail, rendez-vous à New York au bistrot gastronomique Racine. Et puis Laurent, vous recevrez un autre meilleur ouvrier de France dans quelques instants. Oui. Éric Trochon, il viendra nous parler de sauce.
Ah oui, restez avec nous parce que vous allez tout savoir sur la béarnaise, la béchamel. On va vous donner plein de trucs pour les réussir, entre autres, hein, il y en aura d'autres. On connaît les Bibes Gourmands 2019, vous savez, c'est cette distinction qui récompense les tables accessibles dans le guide Michelin, Marion.
Une semaine et demie avant de dévoiler la sélection étoilée du Michelin 2019, le guide a révélé la nouvelle liste des établissements distingués d'un bib gourmand, 604 adresses en tout, dont 67 nouvelles tables un peu partout en France.
Et alors il y a un autre guide, là, celui-ci c'est le Goemio qui change de main, cuisiné désormais à la sauce russe.
Le deuxième guide gastronomique de France vient donc d'être vendu à une entreprise russe, la holding NTI, détenue par un homme d'affaires russe et Jacques Bali, jusque-là vice-président du Goemio Russie. Les nouveaux patrons disent vouloir développer la transmission des savoirs culinaire, renforcer les projets numériques. Comme de Cherizet était à la tête du Goemio depuis 2 ans et demi, il a fortement rajeuni la marque.
Et pour terminer, après l'entrecôte en or de Franck Ribéry, hein, le thon rouge à près de 3 millions d'euros.
C'est le prix d'un poisson entier vendu le 5 janvier sur un marché de Tokyo. La bête de 278 kilos a été achetée par le patron d'une chaîne de restaurants de sushi.
N'importe quoi, on marche sur la tête. En plus, c'est une espèce qui est menacée dans les eaux japonaises, donc c'est vraiment n'importe quoi ça. Allez, pas de cuisine française sans sauce. Voilà une bonne nouvelle. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Notre invité, le chef meilleur ouvrier de France, Éric Trochon, va même plus loin. Il dit « Les sauces sont la cuisine française ». Passé chez Paul Bocuse, Joël Robuchon et Pierre Gagnère, il est le chef de deux restaurants parisiens, Semilla et Elfriedi's. Professeur à l'école Ferrandi, il vient de sortir la Bible des sauces aux éditions Chêne. Bonjour Éric Trochon.
Bonjour.
Et bravo.
Parce que, merci.
Ah non, franchement, votre livre, il est superbe. Leçon en pas à pas, toutes les sauces de la cuisine française. C'est vrai qu'on dit que les sauces sont la colonne vertébrale de notre cuisine. Pourquoi on dit ça d'ailleurs ?
Parce qu'il y a peu de cuisine dans le monde. Si on prend même les grandes cuisines chinoises ou japonaises, où la sauce a une telle importance et nécessite autant d'ingrédients pour la réalisation.
On peut remonter le fil du temps. Hein. Au Moyen-Âge, déjà, on faisait des sauces un petit peu plus acides et épicées, en fait. C'était ça ?
Alors, les épices, c'était pour le côté riche.
Oui, hein, pour les riches, oui.
Voilà. Acides, oui. Effectivement, on utilisait pas mal de verjus. Maintenant, les sauces sont l'âme de la cuisine française. Et la cuisine française, c'est faite d'emprunts. Donc on a emprunté à la cuisine italienne, à la cuisine espagnole, d'où la fameuse sauce espagnole. Et on a développé récemment des sauces plus contemporaines, notamment avec de la sauce soja. Mais il faut quand même savoir que la sauce soja, on l'utilisait déjà à la cour de Louis XIV. Enfin, elle était déjà arrivée. Donc c'est des choses qu'on emprunte, qu'on prend à droite à gauche. Et le génie français fait le reste.
Alors c'est une bible, hein, votre livre, ce livre sur les sauces. C'est au XIXe siècle, Antonin Carême, qu'on appelait le cuisinier des rois et le roi des cuisiniers. C'est lui qui a eu l'idée en fait, de classer les sauces en 4 groupes. Rappelez-nous ce que sont ces 4 groupes.
Oui, alors c'est des codifications qui sont souvent source de querelles entre les cuisiniers, hein, entre les tenants effectivement de Carême et puis d'Escoffier qui est venu derrière, qui lui a écrit le guide culinaire, qui est aujourd'hui un peu notre bible et notre référence. Mais il faut savoir qu'on démarre des fonds qui sont les bases de la cuisine. Et ensuite, on a des sauces mères qui sont des grandes sauces qui sont réalisées sur ces bases de fond. Et puis, on a les sauces dérivées qui sont issues des sauces mères. Architecture très française, hein, avec cette notion de connaissance en même temps. Et donc, on est envié dans le monde entier. Bon, je reviens du Japon. Pour avoir discuté avec beaucoup de chefs japonais, ils nous envient Escoffier. Cette capacité à classifier, même ensuite pour démolir. C'est-à-dire que c'est important déjà d'avoir une classification pour ensuite s'en affranchir. Et c'est vrai qu'on a cette capacité, nous, à la fois de créer des classements et ensuite de les remettre en question.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet dans un instant, justement. On va vous donner des trucs pour réussir la béchamel, la hollandaise, par exemple, la béarnaise, la sauce au diable, la sauce au poivre. Ne bougez pas, on revient tout de suite avec Éric Trochon, meilleur ouvrier de France. Il vous donnera ses astuces pour réussir les sauces. À tout de suite.
Europe 1. À la table des bons vivants, on aime saucer nos assiettes jusqu'à midi et demi avec vous Laurent, mais aussi avec vos invités.
Oui Justine, prévoyez un morceau de pain, même si ça se fait pas dans le grand monde, ici on sauce nos assiettes à la table des bons vivants. Nous recevons le chef Éric Trochon, meilleur ouvrier de France, auteur d'un livre pratique consacré aux sauces aux éditions Chêne. Plus d'une centaine de sauces en leçon, en pas à pas pour les maîtriser toutes. Vous êtes tombé dans la sauce quand vous étiez petit, Éric Trochon.
Hein, mais c'est le grand fantasme de tous les cuisiniers, hein, c'est d'être sauceur. associer, en fait.
C'est vrai.
Oui, oui, c'est l'alchimie, comme la préface de Pierre Gagnère dans le livre l'explique. Le saucier, c'est le grand Manitou.
C'est l'équilibriste.
C'est l'équilibriste, l'alchimiste. C'est le rêve de tous les chefs.
Alors, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent aiment aussi les sauces. Hein, ça fait vraiment partie de notre patrimoine culinaire. On a fait un sondage sur la page Facebook des Bons Vivants. Quelle sauce aimeriez-vous réussir? Alors, en 1, c'est la hollandaise. En 2, la crème anglaise, parce que c'est une sauce. Mmh. En 3, la béchamel. En 4, la béarnaise et un peu plus loin, la mayonnaise. Alors, on va parler de la hollandaise, tiens, c'est vrai. La hollandaise qui est une cousine de la béarnaise, pour faire
oui,
simple.
Oui, sauce émulsionnée chaude, ouais. Sur une base de beurre clarifié, enfin fondu.
C'est quoi le truc pour la réussir? Alors, c'est des jaunes d'œufs, du beurre clarifié. Alors, le beurre clarifié, on va déjà expliquer ce que c'est, peut-être.
Oui, alors, le beurre clarifié, donc on fait fondre le beurre au bain-marie pour qu'il y ait une séparation entre la partie matière grasse et la partie petit lait.
Et que la caséine reste dans le fond.
Absolument. Sauf que en l'occurrence, dans la hollandaise, on peut l'utiliser, ce qui n'est pas le cas de la béarnaise.
Donc, c'est des jaunes d'œufs pour la hollandaise.
Alors, le même principe, on fouette des jaunes d'œufs avec une petite goutte de vin blanc, une petite goutte d'eau. Et quand on a une mousse assez serrée, alors on fait ça au bain-marie à la maison. En cuisine, on fait ça sur le fourneau, mais on a une grande habitude. Hein. Mais oui. À la maison, je vous conseille de mettre un bol dans un bain-marie. Quand vous avez votre mousse de jaune d'œuf qui est assez ferme, vous incorporez petit à petit votre beurre fondu chaud et vous terminez par un jus de citron, une pointe de cayenne, un petit peu de sel à la fin.
Ça, c'est une sauce qui est parfaite pour accompagner des poissons, poissons du
des
moment.
Des légumes également.
Et des légumes, oui.
Vous savez qu'aujourd'hui, on consomme énormément de légumes et ça marche très très bien avec des légumes vapeur.
Alors, nous sommes allés cultiver et récolter l'endive dans le nord de la France. Je vous ai fait des endives avec une béchamel. La béchamel, c'est vraiment aussi une sauce traditionnelle qu'on aime faire en ce moment pour les gratins, par exemple.
Voilà, ça fait partie des sauces mères dont on parlait tout à l'heure. Du lait, un roux. Alors, très important, la cuisson du roux.
Ah oui. Oui, vous en parlez,
souvent,
ouais.
Absolument. Très souvent, on ne cuit pas suffisamment la farine. En fait, il faut bien cuire la farine pour éclater ces molécules d'amidon qui vont ensuite capter toute l'humidité du lait chaud qu'on va verser dessus. Très important, la matière grasse du beurre, en général, traditionnellement, va permettre d'élever la température et justement de cuire la farine. Et
alors, on fait fondre le beurre d'abord, on met la farine ensuite.
Quand
c'est
beurre est mousseux, on met la farine.
Voilà.
On cuit tout doucement le tout sur le fourneau, sur le coin du feu. Et quand ça sent le gâteau, vous savez, cette odeur de biscuit,
c'est vrai, c'est ce que j'ai
là,
fait hier
soir.
Là,
la farine est cuite.
Exact.
Parce qu'avant, non. Et vous allez la retrouver en bouche, vous allez avoir un côté un peu granuleux. Et en plus, vous n'aurez pas la même tenue que si votre roux est bien cuit.
Et pour la béchamel, c'est important d'avoir un contraste entre le roux et le lait, en fait, un contraste de température.
Alors, on l'explique pour éviter de faire des grumeaux. Effectivement, un contraste de température, le roux chaud, le lait froid. Moi, ça, c'est pas quelque chose que je pratique beaucoup. En revanche, le lait chaud, le roux froid,
ça
je fais assez souvent.
Vous faites chauffer le lait effectivement.
Absolument.
Dans votre livre et vous faites refroidir le roux et là ensuite on assemble.
Petit à petit, effectivement, pour éviter les grumeaux, on verse le lait chaud sur le roux froid.
Ah bah. Et alors la grenobloise, tiens, ça c'est une sauce que j'adore aussi pour relever une aile de raie par exemple. Rappelez-nous, tiens, les ingrédients de la grenobloise.
Mais on part sur un beurre noisette hein, dans laquelle on va rajouter capre, éventuellement les petits dés de citron tout petits et du persil. Alors, bon, ça c'est ensuite chacun peut rajouter un zeste de citron s'il le veut, un zeste d'orange s'il le veut.
Des croûtons de pain aussi.
Et les petits croûtons, oui. Très important. Alors, les sauces ne sont pas figées, hein. Ça il faut bien comprendre ça, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans le livre. Si vous voulez mettre de l'orange, mettez de l'orange, n'hésitez pas à remplacer le citron par de l'orange. On a aujourd'hui des agrumes formidables, essayez d'autres agrumes. Changer les capres par des petits dés, je sais pas, de carottes, si vous voulez, que vous avez fait tremper dans un petit peu de vinaigre, par exemple. Ou rajouter d'autres condiments, une petite pointe de curry avec le beurre fondu, ça marche extrêmement bien.
Ce qu'il faut expliquer à nos auditeurs, c'est que effectivement, ça coûte peut-être un peu plus cher si on fait la béarnaise à la maison. On s'est amusé à la faire avec les ingrédients de votre livre, Éric Trochon. Ça revient à 6 euros les 400 grammes. Dans le commerce, on est à 2,35 euros les 400 grammes. Mais évidemment, les matières premières ne sont pas les mêmes. À la place du beurre, on va trouver de l'huile de tournesol, des arômes et du sucre. Alors que dans la béarnaise, il n'y a pas besoin de sucre.
Non, il n'y a pas de sucre. Après, c'est un choix, c'est un style de vie. Hein. On fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut aussi, parfois financièrement, mais faire de la cuisine, c'est un art de vivre. Ça veut dire aussi prendre du temps, parce que dans les 2 euros, vous ne comptez pas le temps à passer.
Ben oui.
Et puis, quand on fait une sauce, il faut s'y mettre. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut prendre le temps nécessaire, réunir les ingrédients, et puis attaquer la sauce. Mais c'est un choix de vie. Est-ce qu'il faut toujours être dans la vitesse ou dans l'économie? Je ne sais pas. Est-ce
non, le
pas
week-end, prenons le temps de cuisiner, de faire de belles sauces. Il est incollable sur les sauces. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Éric Trochon pour mettre notre cuisine à toutes les sauces. A tout de suite sur Europe 1.
Le chef Éric Trochon est l'invité de Laurent Mariotte ce samedi à la table des bons vivants. Et Laurent, tout ce qu'on peut dire, c'est que ça envoie.
Oui Justine, absolument. La table des bons vivants envoie la sauce ce samedi matin avec notre invité, le chef Éric Trochon, meilleur ouvrier de France, chef du restaurant Sémilla à Paris, professeur à l'école Ferrandi. Il est l'auteur aux éditions Chêne de la Bible des sauces. Sauce, leçon au pas à pas. Alors dans votre livre, Éric, il y a pas moins de 70 sauces classiques et plus de 130 sauces en tout, hein, si on compte les fumées, les liaisons et puis les fonds de sauce. Rappelons rapidement l'importance des fonds de sauce dans notre cuisine.
Dans la cuisine française, ils sont fondamentaux. Les fonds de sauce sont les bases de la cuisine française des sauces.
Alors voilà. les fonds de sauce,
c'est des jus de viande voilà. Et les fumées de poisson principalement. Alors il n'y a pas un seul jus de viande, hein. Il y a des jus de volaille, il y a des jus bruns et des jus blancs. Et puis dans les poissons, il y a des fumées de poisson simples et puis ce qu'on appelle les fumées de poisson rouges aujourd'hui, qui sont plutôt des formes de bisque en fait, qui servent également ensuite à dériver les sauces.
Il y a eu un débat à un moment où on disait qu'on ne pouvait plus faire de fonds de sauce dans les restaurants. C'est faux, à partir du moment où c'est fait au jour le jour, on peut faire ces fonds de sauce.
Oui, ce qui a été reproché au restaurant, c'est qu'en fait les fonds de sauce étaient un peu les poubelles de la cuisine qui traînaient sur les fourneaux. Ça c'est terminé. Un fond de sauce, c'est un plat cuisiné à l'avance. On doit le considérer comme un plat cuisiné à l'avance. Conservation, deux jours, au froid, à plus 3 degrés.
Mais oui.
Ça reste pas toute la journée dehors. Et à la maison, ce que je conseille dans le livre, c'est de le verser dans des petites barquettes à glaçons et de faire des glaçons qu'on met au congélateur dans un sachet hermétique, ce qui nous permet d'avoir toujours des jus. Moi, je le fais à la maison en récupérant les bouillons de pot-au-feu ou les bouillons de poule au pot, qui font d'excellentes bases ou de soupe. Ou de sauce.
On va faire un petit blind sauce, tiens, justement. On a deux sauces avec une belle dominante jaune et un petit peu de verdure à l'intérieur. Alors, on goûte. C'est pas radiophonique, mais c'est bon. C'est quoi, ça? C'est une gribiche?
C'est une gribiche. Voilà, je vous ai mis en fait en vis-à-vis la gribiche et la ravigote, qui sont deux sauces qu'on
confond
très souvent. Utilisé principalement pour les abats blancs, mais pareil, ça peut aller sur des légumes aujourd'hui. Vous parliez de vos endives vapeur, ça peut tout à fait accompagner une endive vapeur, hein, c'est délicieux.
Rappelez-nous la base de la gribiche alors, Éric Trochon.
La gribiche, c'est un jaune d'œuf qui est cuit, à la différence de la mayonnaise où le jaune d'œuf est cru. Donc dans la gribiche, le jaune d'œuf est cuit. Et ensuite, on incorpore moutarde, puis on émulsionne, on monte cette émulsion avec de l'huile.
Et la ravigote?
Et la ravigote, on est plutôt sous une forme de vinaigrette, donc beaucoup plus fluide. On la sert tiède quand même, c'est plus agréable. Mais ces deux sauces, quand on en parle, on les confond. Quand on les a dans l'assiette, en général...
Oui, mais elles sont toutes les deux copines avec la tête de veau.
Elles sont copines avec la tête de veau, mais pas que.
Mais pas que. Avec quoi vous pouvez les servir, par exemple?
Bon, on a légumes vapeur, bien sûr. Des poissons, excellents. Sur des poissons blancs, juste vapeur. Le contraste, en fait, d'un poisson qui est passé à la vapeur avec une sauce un peu, comme ça, un peu riche, qui va apporter le soyeux et l'acidité important. Dans la cuisine française, l'acidité pour contrebalancer le beurre ou l'huile qu'on utilise.
Quelle est votre sauce préférée, tiens, Olivier Pouls, vous qui aimez justement manger de beaux plats comme ça, généreux, conviviaux?
Ben, moi, j'adore la sauce béarnaise, par exemple, que je trouve être une sauce majeure. Et votre bouquin est extraordinaire parce que c'est vrai qu'il faut réhabiliter les sauces. Et il y a quelques années, elles avaient un peu disparu. Alors, par fainéantise, je pense, de beaucoup de cuisiniers qui ne pouvaient plus les faire ou qui n'avaient plus envie de les faire. C'est en train de revenir et c'est très bien.
C'est vrai que les régimes ont peut-être tué un petit peu les sauces, Éric Trochon. À un moment, c'était plus à la mode de manger des sauces.
Oui, quand on a commencé à mettre des bikinis, effectivement, la sauce a disparu en même temps. Ça, c'était les années 70, la nouvelle cuisine. On s'est intéressé au corps, un petit peu moins à la cuisine. Mais ça revient. Effectivement, des cuisiniers qui ont laissé un peu aller les techniques, donc on avait des sauces très approximatives, ça disparaît. Aujourd'hui, les sauces sont précises parce que justement, on est talonné par l'agroalimentaire qui nous oblige à être différents et précis et forts. Donc, on s'attache à conserver ces sauces dans ce qu'elles ont de meilleur. Donc, moins grasse, assurément, plus diversifiée, assurément, en moins grosse quantité également. Et voilà, mieux assaisonné. Je trouve que la sauce revient. Elle a repris de la délicatesse et de l'élégance.
Eh bien, merci d'être venu nous parler des sauces aussi bien que ça, Éric Trochon. Je rappelle votre livre paru aux éditions Chêne, La vraie Bible des sauces, leçon au pas à pas. Bientôt midi sur Europe 1, avant d'accueillir notre invitée, la comédienne bonne vivante Mylène de Mongeau, c'est l'heure de retrouver quelqu'un qui aime les sauces aussi. C'est le camarade Jean-Luc Petit-Renaud. Et aujourd'hui, il en croque pour un boulanger qui a le cœur sur la main. bien le bonjour, copain Jean-Luc.
Et je vous salue bien, mes bons vivants. On se retrouve dans un endroit dans le Marais qui s'appelle au Petit Versailles, qui est un complexe un peu comme ça, salon de thé, pâtisserie. Et je viens surtout pour son propriétaire, c'est le Louis XIV de la boulangerie, il s'appelle Christian Vabré. C'est un meilleur ouvrier de France, qui est un homme qui fait beaucoup pour l'histoire du pain en France. Et figurez-vous qu'au cours de ses voyages à l'étranger, il s'est amouraché d'un orphelinat en Chine, à Shanghai exactement, où il a proposé un partenariat avec des jeunes orphelins, des jeunes adolescents de 16, 17 ans, 18 ans, pour venir en France se former au métier de la boulangerie. Alors il les garde dans son école française de boulangerie qui est basée à Aurillac. Il les forme à toutes les vertus de tous les pains du monde. Et ces enfants-là vont se remettre à allumer les fours de campagne, vous savez ce qu'on appelle le four banal au milieu de la place du village, apprendre à cuire le pain à l'ancienne, comme on a l'habitude de dire, avec des croûtes croustillantes, etc. etc. Et pendant 2 ans, ils se forment et ils repartent où ? En Chine, et puis essaient de dispenser comme ça leur savoir, souvent dans les écoles professionnelles de boulangerie. Et je trouvais cet exemple magnifique sur la réadaptation, sur la réintégration, sur l'art et la manière de donner la main à quelqu'un d'autre. Ce Christian Vabré, je l'admire particulièrement. Vive la boulange et vive les belles histoires.
Et vive la France. Merci beaucoup Jean-Luc Petit-Renaud. Vous avez bien raison de mettre à l'honneur Christian Vabré. On a son pain avec nous d'ailleurs, justement, un pain qui est généreux comme lui. Allez, ne bougez pas, on se retrouve juste après la pause avec la chronique d'Anne Lorfam. Vous êtes d'humeur pâtissière ce samedi matin, hein, Anne-Laure ?
Tout à fait, je prépare ma poche à douille,
et bah,
la bouche pleine.
Et nous accueillerons Mylène de Mongeau, une comédienne bonne vivante. A tout de suite sur Europe 1.
De 11h à 12h30, vous êtes bien installé à la table des bons vivants. Et vu qu'il est 11h48, c'est le moment de rajouter un couvert, Laurent.
Absolument, Justine. Nous sommes ensemble depuis 11h. Et comme tous les samedis, hein, juste avant midi, c'est l'heure d'accueillir notre invitée, une comédienne bonne vivante. Ce samedi, née à Nice, elle a été élevée à la polenta et au gnocchi de pommes de terre du quartier de la Bouffa. C'est en arrivant à Paris qu'elle se prend d'amour pour le cinéma. Et depuis Les Sorcières de Salem qui l'ont révélée en 1957, elle a enchaîné les rôles dans une centaine de films. Abonné au succès populaire, elle est Hélène dans Fantomas, Laurette dans la trilogie Camping, et depuis lundi, on la retrouve dans la série Infidèle diffusée sur TF1. Mylène de Mongeau est notre invitée. Bonjour Mylène.
Bonjour.
Bah, presque une centaine de films, j'ai compté cinéma et télévision. J'ai compté la télé, il y en a beaucoup.
D'accord.
Vous êtes une vraie bonne vivante, c'est pour ça qu'on vous aime.
Je pense, oui, hein. Je souffre de ça d'ailleurs, parce que les bons vivants ont trop de poids.
Mais vous êtes parfaite, arrêtez.
Non.
Mais on vous le dit, c'est comme le cinéma, ça fait partie des plaisirs de la vie, bien manger, Mylène de Mongeau.
Oui, je suis bien d'accord. Mais
d'ailleurs,
il faut que ce soit bon.
Dans la série dans laquelle on vous retrouve actuellement sur TF1, là, vous êtes un petit peu au repos.
C'est la première fois que je meurs.
Vous êtes alité, vous êtes
dans
pas en
un
forme.
Film. C'est ma première scène de mort, hein. Je me suis régalée.
On va pas tout dévoiler parce que c'est tous les lundis hein, sur TF1.
Oui, mais je vous dis pas dans quel épisode c'est.
Question rituelle, Mylène de Mongeau, quel est votre goût de la semaine ?
Oh, c'est un petit fruit dont je suis folle, que je trouve juste avant Noël et que j'arrive plus à trouver après. Et que les grands cuisiniers, les grands chefs mettent en décoration sur leurs gâteaux. Et un jour, j'ai eu la curiosité d'ouvrir cette décoration et de goûter ce qu'il y avait à l'intérieur. Et j'ai trouvé ça exquis. Ça s'appelle physalis.
Eh oui, c'est le physalis.
C'est
le physalis, c'est un garçon. C'est le fils Zalis.
Alors vous ouvrez les petites choses comme ça, les petites feuilles,
ouais.
Vous tenez ça dans la main et vous mordez. Ouais.
C'est sucré, juteux et acidulé à la fois. Hein, il y a plein de saveurs.
Je trouve ça absolument exquis.
C'est vrai que c'est bon. Ça pousse en arbuste sous des formes de buissons et c'est quelque chose qu'on aime retrouver qui apporte un petit peu cette fraîcheur
Je vais en planter à la maison ce truc-là. Je vais absolument trouver d'où ça vient, faire venir et planter.
On l'appelle aussi l'amour en cage.
C'est encore plus joli, non ?
C'est beau ça comme nom.
Oui.
Vous êtes une romantique.
Oui.
Et ben voilà.
Que ça.
Et vous êtes curieuse aussi, Mylène de Mongeau.
Oui, j'espère. Parce que je crois que c'est grâce à ça qu'on ne vieillit pas. Je crois que la curiosité, ça vous maintient en vie.
Exactement.
On veut savoir.
On est très curieux. Nous aussi, on veut savoir plein de choses à la table des bons vivants. Et chaque semaine, un de nos membres teste une nouveauté, passe une nouveauté, que ce soit un ingrédient.
Il y en a un déjà qui mange là. Avec
Olivier, il mange très bien. Oui, il se tient très bien à table. Et on va tester une nouveauté à la casserole avec vous, Anne-Laure Femme. C'est une box pour les becs sucrés. Vous avez envie de jouer à Pierre Pierre Hermé, en fait, c'est ça?
Oui, en 2019, je deviens Pierre Hermé en toute modestie, Laurent. Voilà, je m'y attaque tout doucement avec la boîte à pâtisser qui a été lancée récemment. Donc, dans cette boîte, vous avez une recette pour 6 personnes. Vous avez les ingrédients secs qui ont déjà été pré-pesés, c'est plutôt pratique.
Ouais.
Et vous avez des ustensiles, ah oui, ainsi qu'une vidéo YouTube pour vous donner des astuces
donc
très
complet.
Visuelles.
Ouais. Ingrédients, ustensiles, vidéos. Alors, c'est vrai que c'est la mode, hein, c'est la tendance des box. Il y en a un petit peu vraiment de toutes sortes et de toutes les qualités. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, celle-ci?
J'en ai testé pas mal, Laurent, et j'avoue que celle-là, elle m'a un peu bluffée parce qu'elle est ultra bien faite et elle a été conçue avec passion par un boulanger pâtissier d'expérience. Et ça se sent. Ça se sent notamment dans la qualité des ingrédients secs qui sont dans la boîte et aussi dans le matériel de pâtisserie qui est dispensé. Vous avez par exemple des douilles de Buyère.
Fabriquée dans les... Non, mais c'est vraiment de la qualité. C'est une marque qui équipe de nombreux chefs cuisiniers, de nombreux cuisiniers amateurs aussi. Oui.
Et je sais que parfois, il y a des Français qui, pour qui c'est difficile d'aller se les procurer.
Et qu'est-ce que vous avez testé alors comme recette?
Alors, j'ai testé celle de l'Alibaba poire. J'espère que je l'ai bien dit.
Ça sent le baba au rhum, ça?
Voilà, c'est un baba au rhum et aux poires. Alors, c'est du coup des mini babas. Je l'ai fait.
Ah, mais il est là, oui, je
oui,
le...
il est là,
oui, j'ai pas vu.
Il est tellement petit, non?
Ah non, il est beau. Et il est beau, votre baba.
Alors, il n'y a pas de rhum.
Il n'y a pas de rhum?
Non.
Alors, ah bon? Ah bah elle est pas contente, Mylène.
Non, bah non, baba, il y a du rhum dans le baba.
Alors... Bon,
en fait, le rhum n'était mettre du, de, ah oui, de la
pas,
poire,
vous avez mis du rhum, vous avez pas mis de rhum.
Le rhum n'était pas fourni et j'ai dû récupérer une vieille bouteille. Je vous avouerai que je n'étais pas certaine de la qualité.
Ah
voilà.
On vous confirme que c'était pas une grande qualité parce qu'on le sent, il était un peu évaporé votre rhum. Hein. Dites donc, il était
peut-être,
fatigué.
Je vous avoue, peut-être que j'ai un peu péché là-dessus. Mais en tout cas, dites-moi votre avis, hein, mais je trouve que c'est pas si
non,
mal.
C'est bon, c'est non, bon. C'est bon. C'est très bon. C'est
il y a
très
du
joli.
Caramel dans le fond, non?
Ouais, il y a une ganache au caramel, exactement.
Ouais, ça se sent.
Et la crème fouettée à la surface est bien faite, elle est bien dressée avec cette douille qui fait un joli relief et un bel effet, quoi.
Voilà, et ça fait un look qui n'est pas ringard, précisons-le, parce que moi, c'est ce que je n'aime pas trop dans la pâtisserie, c'est souvent on fait beaucoup de fanfreluches pour pas grand-chose. Avec une boîte à 23,90€ plus des frais de port à 4€ et des ingrédients frais achetés, vous retrouvez sur un budget de 30-35€ par recette à investir. Donc,
mais il y a la recette, les ustensiles et une partie des ingrédients, ce qu'on appelle le sec, l'épicerie, quoi.
Voilà, donc je dirais que ça les vaut, honnêtement.
C'est pour combien de personnes?
6 personnes à chaque fois. Voilà. Et ça change tous les mois.
5€ le dessert.
Vous validez, Mylène de Mongeau?
C'est bon.
C'est bon.
Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a cette petite pointe de sel. Je déteste la pâtisserie dans laquelle les gens oublient le sel.
Absolument.
C'est le sel qui est goûteux dans la pâtisserie.
C'est un exhausteur de goût. Hein.
Je
c'est
mets
Pierre
toujours
Hermé qui nous
du beurre salé, moi. Ouais. Même si on me commande du beurre doux.
Et on retrouvera les références, évidemment, sur europe1.fr. Merci beaucoup, Anne-Laure Femme. Bientôt l'heure du plat du jour à la table des bons vivants. On vous emmène en Méditerranée pêcher les calamars pour les cuisiner à la sauce corse du côté de Bastia. Ça vous tente ou pas, Mylène de Mongeau?
On va voir.
On va... Ce sera juste après les titres du journal de la mi-journée de Fabienne Lemoyle. A tout de suite les amis.
Allons-y, allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Il est midi sur Europe 1, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Il reste encore de la place à la table des bons vivants. Nous sommes ensemble depuis 11h et pour la dernière demi-heure, Mylène de Mongeau est notre invitée. Tout se passe bien, Mylène?
Très bien, je suis heureuse.
Ah, bah si vous êtes heureuse, on est heureux. On vous retrouve chaque lundi dans la série Infidèle diffusée sur TF1 aux côtés de Claire Kem et Jonathan Zakaï, une série dont Europe 1 est partenaire. Vous avez été mariée au réalisateur Marc Simenon, le fils de l'écrivain Georges Simenon, Mylène de Mongeau.
Oui.
Georges Simenon, qui comme vous, ne voulait pas manger n'importe quoi. Hein. Qu'est-ce
non,
qu'il
mais
disait?
Il m'a fait des coups de travagard parce qu'un jour, il m'a obligé à manger de la langue. J'arrivais chez lui, il me faisait de la langue au capre, et je détestais ça à l'époque. Et après, il me faisait un blanc manger, qui est un truc très lourd, avec de l'amande et de la crème. Et je détestais ça. Et je me suis toujours demandé s'il ne faisait pas exprès de me faire bouffer ça.
Mais non, mais il disait quand même une chose importante, vous en parlez dans un de vos livres. Il disait, le corps, c'est une Rolls. L'important, c'est qu'on met dedans, c'est ce qu'on mange.
Ah oui, absolument. Dans la voiture, vous mettez une essence de qualité. Dans votre corps, vous mettez aussi des ingrédients de qualité. Sinon, vous mourrez.
Mais vous faites vous-même très attention à ce que vous mangez.
Moi, je suis bio.
Comment vous faites vos courses?
Dans deux boutiques bio qui sont en face de chez moi et à la campagne, puisque je vis beaucoup à la campagne, chez les petits producteurs locaux.
Et alors, ce qui vous énerve au supermarché, c'est quand on ne lit pas les étiquettes des produits transformés.
C'est insupportable.
C'est vrai. Vous dites qu'on ne pense plus, en fait.
C'est-à-dire que si vous faites votre marché en voulant vraiment, vraiment regarder ce que vous mangez, il faut prendre des lunettes. Des fois, il faut même prendre une loupe. Et vous commencez à décortiquer tout ce qu'il y a derrière le produit qu'on vous offre. Et vous êtes terrifié.
Et vous cuisinez au quotidien ?
Si j'ai des amis, oui. Si j'ai pas d'amis, il faut dire que ce que je préfère, c'est des œufs à la coque de mes poules avec un très bon pain et des mouillettes avec du beurre salé.
Eh ben, mais quoi de mieux ? Mais ça, franchement, les choses les plus simples sont les meilleures. On est preneurs. Hein, vous pratiquez l'art de la mouillette aussi, Olivier Pousse.
Je mouillette beaucoup. Mais c'est vrai que les œufs, quand on a des œufs de ferme de poules qui ont mangé plein de choses, qui ont picoré, c'est un vrai goût qu'on ne retrouve pas du
évidemment.
Tout dans les œufs.
Et une bonne baguette, un bon beurre, mais on est heureux.
Allez. Cela dit, le bon pain, c'est pas facile. Il a trouvé,
non,
hein,
oui, absolument.
Bon,
à Paris, on a de la chance, mais c'est vrai que parfois, en région, nos régions, on a des boulangers qui jouent la facilité.
Hein,
mais...
Ils jouent le surgelé. Hein.
Ouais, aussi, oui. Alors ça, on n'aime pas ça. Allez, c'est l'heure du plat du jour à la table des bons vivants. Il fait froid, on va vous réchauffer avec un plat traditionnel corse très facile à réaliser, vous allez entendre. C'est un plat à base de calamar, Marion Sauveur. Alors, vous n'êtes pas allé pêcher le calamar en Corse, mais vous êtes allé le cuisiner. Racontez-nous.
Effectivement, alors c'est une recette très familiale, les calamars à la Bastiaise. Une recette avec de la sauce tomate et du vin rouge corse, bien sûr. Alors, les calamars ne sont pas élastiques dans cette recette, mais complètement fondants, et ça, c'est le plus important.
Alors, vous avez raison, le calamar, où ça cuit peu de temps, hein, on en parlait tout à l'heure pendant la pub avec Mylène de Mongeau, c'est-à-dire quelques minutes à la plancha, ou alors très longtemps façon ragoût. Et ce qu'il faut expliquer, c'est que ce mois de janvier, c'est la bonne période pour pêcher le calamar en Méditerranée.
Alors, j'ai rencontré Clément-Pierre Calandini, son restaurant Coltempo est installé sur le Vieux-Port à Bastia, et cette recette de grand-mère, c'est une spécialité de sa maison. Alors, on a commencé, avant de cuisiner les calamars, à les nettoyer et à séparer donc le corps des tentacules, à vider le corps, à jeter les yeux, les entrailles, retirer le bec. Enfin,
le poissonnier peut le faire, ça. Hein.
Voilà, tout simplement. Et ensuite, il a suffi de faire un petit bouillon avant de préparer une deuxième cuisson avec les calamars.
Quel genre de petit bouillon ?
Vous voulez savoir ?
Un petit bouillon, oui, non. C'est intéressant, les bouillons.
Eh bien, tendez l'oreille.
Ok.
Une fois que nos calamars ils sont tous nettoyés, rincés, on va les émincer en rondelles d'environ 1 cm. En le faisant trop fin, on va pas avoir de texture. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le mets dans une marmite avec de l'eau froide, un peu de sel, une branche de thym, la couenne de la pancetta pour faire un bouillon. On va lancer à feu fort. Ensuite, il faut que le calamar refroidisse véritablement dans leur eau, entre une demi-heure et trois quarts d'heure. C'est ce qui va donner le goût au bouillon.
Et maintenant, on commence à faire chauffer de l'huile d'olive dans une casserole.
Pour bien les saisir.
Ça crépite, hein.
Et on ne baisse pas le feu. On laisse le calamar vraiment accroché à la casserole.
Il faut qu'il laisse des sucres.
On va y ajouter une cuillère à soupe de concentré de tomate. Quand ils sont bien colorés, on va les débarrasser. On met un peu d'huile d'olive. Et là, on va envoyer notre garniture aromatique. L'ail, les carottes, l'oignon émincé, la pancetta en gros dés et le bouquet garni. On y ajoute les calamars. On va déglacer avec notre vin rouge de patrimoine. Ensuite, on va ajouter notre coulis de tomate. Coulis, bien sûr qu'on fait l'été, parce que les tomates, elles sont bonnes en été, elles sont pas bonnes en hiver.
Oh là là, ça sent bon.
Alors, n'oublie pas de mettre l'eau de cuisson de nos calamars et on va laisser réduire à fond, 2 heures. Et c'est là que le goût va se faire.
Là, on est en fin de cuisson, hein.
On va goûter maintenant. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'a pas du tout la texture caoutchouteuse du calamar.
C'est vraiment fondant, en fait. Hein.
Et on a envie de mettre le pain dedans.
Eh oui, il faut saucer. Il a raison, Clément-Pierre. Absolument, avec ce bel accent corse, ça fait plaisir.
Oui. On vous est au bord de la mer. Là.
Ah, on y était. Hein. Ça vous a plu, Marion?
Oui, c'était délicieux. Et pourtant, j'étais pas fan des calamars avant de goûter sa recette.
Alors, Mylène de Mongeau, vous aviez un doute sur le calamar, vous?
Non, je me rappelais des parties de pêche où quand vous sortez le calamar, si vous n'êtes pas intelligent avec le poisson, vous prenez un bon coup de jus d'encre
dans
la gueule.
Il se défend.
Et
il
ça
se
part
défend.
Très difficilement.
Alors, quel vin pour accompagner ce plat à la sauce corse, Olivier Pousse?
L'écho, évidemment, au patrimoine. On met un peu de patrimoine dans la sauce, on va boire après le patrimoine à table. Et on parlait sauce tout à l'heure, c'est vrai que les sauces au vin, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et quand on utilise un vin pour une sauce, on prend plutôt un bon vin et c'est le vin qu'en général on conserve à table. Et il y a un écho qui se fait très naturellement. Donc là, le patrimoine, évidemment, très bon vin
en Corse. Et vous retrouverez la recette sur notre site europe1.fr, Anne-Laure Femme.
Petite parenthèse sur l'eau de cuisson, parce qu'il faut vraiment récupérer l'eau de cuisson des calamars, ça fait des bouillons formidables.
Eh bien voilà, on ne jette rien, on ne gâche rien, ne bougez pas. On revient tout de suite avec notre invitée, Mylène de Mongeau, bonne vivante, cuisinière, gourmande. Et nous répondrons aux questions que vous avez posées sur le répondeur des bons vivants au 3921. Bon samedi sur Europe 1. A tout de suite.
Vous n'avez pas d'idée pour ce midi ? Eh bien, heureusement, sur Europe 1, on vous en donne à la table des bons vivants, grâce à vous, Laurent, mais aussi à votre équipe.
De belles endives, des sauces à toutes les sauces, des calamars à la bastiaise. Oui, Justine, c'est vrai que depuis 11h, on vous donne des idées pour cuisiner ce week-end. Mylène de Mongeau est notre invitée. On vous retrouve tous les lundis, Mylène, dans la nouvelle série événement sur TF1. Infidèle, une série dont Europe 1 est partenaire. Vous aimez beaucoup écrire aussi, Mylène. Vous avez sorti l'année dernière La vie, c'est génial. Vieillir sans oublier d'être heureux aux éditions de l'Archipel.
Oui, ce sont des conseils d'expérience. Parce que comme j'ai à peu près tout testé et tout essayé, et vu mon grand âge, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Mais là, maintenant, je sors un nouveau livre en mai qui s'appelle L'amour fou et qui est sur les animaux. Et j'ai encore un autre livre qui sortira en septembre.
Vous n'arrêtez pas.
J'arrête pas.
Non. Mais dans votre précédent livre, justement, vous ralliez contre les nutritionnistes. Hein, vous expliquez qu'ils vous empêchent de manger
beaucoup d'argent.
Oui.
Et vous faites scrupuleusement tout ce qu'il vous dit pendant un mois, deux mois. Au bout de deux mois, vous en avez ras-le-bol. Et puis, vous allez dans un bon restaurant et vous dites « Oh, merde !»
Et oui.
Et dans ces cas-là, c'est comme pour les alcooliques. Quand vous avez mangé une fois, ça repart. Donc, c'est très, très décommandé. Quoique les nutritionnistes vous disent que le bon gras, c'est bon.
Mais oui, évidemment que le bon gras, c'est bon. Il faut manger un petit peu de gras.
Tout est une question de bon sens
et de dosage. Voilà. Absolument.
Voilà.
Agriculture, exact. Alimentation, recettes de saison. Posez vos questions sur le répondeur du 3921 et on vous répond. Et on va commencer par un premier appel, justement.
Bonjour Laurent, Sabine de Malemort. À propos des lundis sans viande ni poisson, est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? Merci.
Ah oui, c'est sorti cette semaine, le lundi vert. Donc effectivement, un manifeste signé par 500 personnalités, dont vous,
oui,
Mylène
absolument.
De Mongeau,
oui,
qui
oui.
nous encourage à arrêter la viande et le poisson le lundi.
Je vous encourage surtout à rester en bonne santé. Alors en un, c'est bon pour la santé, parce que c'est très bon de laisser son organisme un petit peu se reposer de choses dont il n'a pas vraiment besoin. Parce que tous les médecins vous disent que quand on mange 100 grammes, de volaille ou de viande, maintenant c'est ça va, mais on peut très bien passer une journée sans. Pour les animaux, c'est un royal cadeau qu'on leur fait que de passer une journée sans viande.
Mais en gros, ce que vous dites, c'est de revenir à du bon sens. C'est vrai qu'après la Seconde Guerre mondiale, on s'est mis à manger beaucoup de viande, peut-être un petit peu trop. C'est
à
ce que nous
des
dit.
Des restrictions pendant la guerre.
Voilà.
Moi, je me souviens quand j'étais petite, hein, on mangeait le dimanche avec mes parents le rôti de bœuf. Ce qui restait. Maman faisait du haché parmentier, après on faisait des boulettes, après on en mangeait un petit peu toute la semaine jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Généralement, il n'y en avait plus au bout de trois jours, après on ne mangeait plus du tout de viande. Et on mangeait du poisson une fois par semaine. Le
c'est ça, il faut revenir à une nourriture équilibrée. Mais nos amis bouchers ne sont pas contents hein, de ce lundi vert.
Ils ont fait qu'à vendre de la viande de meilleure qualité qu'on achètera un peu plus cher. Alors maintenant, il paraît qu'il y a un label qui va sortir où on va vous dire si la bête a été tuée avec
oui.
dignité et proprement.
Absolument.
Et bien.
Un label qui
bien.
Suit le bien-être animal.
Voilà.
Absolument. Casino a déjà lancé ça. On en a parlé ici à la table des bons vivants. Mangeons un petit peu de tout régulièrement et comme ça, nous serons en bonne santé. Alors, une autre question sur le répondeur au 3921.
Bonjour Laurent, Malika de Rhin. Ma question était, voilà, pourquoi y a-t-il différents les entiers, les demi-écrémés ou les écrémés? Quel est l'intérêt de boire l'un ou l'autre? Et surtout aussi, avec quel lait cuisiner, par exemple, la purée, les crêpes? Voilà, bisous à tous.
Merci Malika. Bah, la première différence, déjà, c'est le goût. Effectivement, un lait entier est beaucoup plus riche qu'un lait demi-écrémé, qu'un lait écrémé. Il y a le lait cru aussi, Anne-Laure Femme.
Bah, le lait cru, c'est le lait quasi intact, qui n'a pas fait l'objet d'une pasteurisation à haute température. Donc, c'est quand même en goût ce qu'il y a de mieux.
Oui, mais après... en digestion, c'est plus compliqué.
C'est vrai.
Alors, la petite astuce, c'est de chauffer à feu doux sur une casserole et vous débarrasser la grosse peau. Et a priori, vous aurez un peu plus de facilité à digérer le lait, Olivier.
Mais un bon lait comme celui-ci ou un bon lait entier pour la purée, ça change tout. Au niveau du goût, avec un bon beurre également.
Prenez le frais.
C'est vrai que ça n'aura pas du tout le même résultat qu'avec un lait demi-écrémé. Le lait écrémé, par contre, complètement écrémé, avec le bouchon vert qu'on voit un petit peu partout, ça c'est de la flotte avec un arrière-goût de lait. Aucun intérêt, on est d'accord, Mylène de Mongeau.
Aucun intérêt.
Vous êtes lait de vache, de chèvre,
moi,
de brebis.
Moi, depuis que je ne suis plus un petit veau, je ne prends plus du tout de lait. Je pense que lait, c'est très bien tant qu'on est en croissance. Mais... Et après, c'est très bien pour aller dans la cuisine. Et ça, dans la cuisine, on prend du vrai bon lait.
Et pour répondre à Malika, pardon, c'est aussi le lait entier frais qui va s'imposer pour les pâtes à crêpes. Je trouve qu'il est beaucoup plus facile à travailler et il n'y a aucun problème niveau goût.
Et les laits végétaux aussi, vous êtes adepte des laits végétaux?
Ah, moi, je suis lait d'amande.
Lait
j'ai
d'amande.
Essayé tous les laits, noisettes, machin, tout ça. Ils sont tous trop sucrés. Le lait d'amande est parfait.
Une banane mixée le matin avec du lait d'amande et quelques amandes entières qu'on passe comme ça au blender. Ça met le facteur sur le vélo pour démarrer la journée.
Ça se fout les papilles.
Merci Mylène de Mongeau et merci à nos auditeurs d'avoir posé leurs questions 3921. On revient tout de suite, juste après la pause avec vous, Mylène. On va vous découvrir de l'autre côté de la fourchette. Ce sera avec le questionnaire des bons vivants. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
La table des bons vivants continue avec Laurent Mariotte. Et vous l'avez entendu il y a quelques minutes, le répondeur reste ouvert pour toutes vos questions. Alors n'hésitez pas à appeler le 3921, 50 centimes la minute.
Dernier coup de fourchette à la table des bons vivants. Mylène de Mongeau est notre invitée. Alors on va découvrir vos coups de fourchette justement dans un instant grâce au questionnaire des bons vivants, Mylène. Mais juste avant, c'est l'heure de la chronique d'Olivier Poulx consacrée au vin. Vous aimez boire? Vous aimez?
Ah oui, voilà.
Ah, vous avez des préférences?
J'aime le bon vin. Oui, je suis à très très Côte-du-Rhône et Languedoc maintenant. Je trouve qu'ils ont fait des progrès dans les vins du Languedoc, extraordinaires.
Absolument. Vous aimez le soleil, quoi?
J'aime le soleil, j'adore le vin blanc, mais mon médecin n'aime pas que j'aime le vin blanc.
Bah alors, on ne lui dira pas, mais voilà. Alors, on va parler du choix des verres. C'est les soldes, ça tombe bien, mais c'est vrai que les verres ont leur importance sur la dégustation
ça
et sur.
Ça change beaucoup, beaucoup.
Sur
un
le bon moment.
Vin dans un joli verre, c'est tout à fait. Oui.
Eh ben, c'est ce que va nous dire Olivier Poulx, justement. Et comme c'est les soldes, ça tombe bien, on refait nos armoires de vaisselle, en fait.
Pourquoi pas, profitez-en. C'est vrai que le verre, c'est le révélateur du vin. C'est ce qu'il y a entre la bouteille et votre bouche. Et un grand verre, ça peut tout changer. Vous savez, on a tous eu chez nos grands-parents, chez notre grand-tante ou je ne sais où, des anciens verres de cristallerie, parfois très jolis et qui valent très cher, mais qui d'un point de vue œnologique sont catastrophiques, oui. Parce que très évasés, parce qu'ils ne libèrent pas les arômes.
Chez Tantine, il y en avait, ma tante.
Ben voilà, ben exactement. Moi aussi d'ailleurs.
Moi aussi.
Et on doit un verrier autrichien qui s'appelle Georges Riedel, il y a une bonne vingtaine d'années, la conception d'une gamme de verres réellement dédiée à la dégustation des vins.
Alors ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, justement, une gamme dédiée aux vins, des verres spécialement conçus pour la dégustation?
Je vous en ai apporté quelques-uns des verres là, et notamment, voilà, ça, vous avez devant vous un vrai verre à vin travaillé pour ça. On le voit, le col du verre se resserre. Il y a tout un travail, presque d'ingénieur d'ailleurs, de manière à capter les arômes du vin dans le verre et à vous les restituer au nez, bien sûr, mais aussi au moment où vous allez le boire.
Mais c'est pas
dans
pour tous les vins, ça, non? C'est plus pour le Bordeaux, non, ça?
Alors,
non,
c'est vrai qu'on voit aujourd'hui des gammes qui sont très, 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 très larges, avec notamment...
spécial blanc.
Voilà, rouge, jeune rouge, vieux rouge, pour le champagne.
Jura.
Et alors là, vous avez un exemple d'un verre qu'on va dire universel, parce que dans tous ces verriers, alors que ce soit Riedel, que ce soit Spiegelow, Zalto, Royal Glass, Chef et Sommelier, ont ce qu'on appelle un verre universel qui peut servir du champagne au vin de dessert.
Combien ça coûte? Quel prix on met pour un verre à vin?
Alors, on va trouver des verres, ce qu'on appelle les verres mécaniques, donc des verres faits de manière industrielle, autour de 8-10 euros. C'est les soldes en ce moment, peut-être qu'on vous fera un petit prix. Et puis après, pour des grands verres en cristal, soufflé-bouche, certains, on va monter à des prix très très élevés. Mais franchement, autour de 8-10 euros, vous avez des verres de verriers spécialisés. Et franchement, ça vaut la peine de mettre un petit peu d'argent parce que vous n'allez plus goûter votre vin de la même manière. Et puis celui-là, là, que je vous avais ramené, qu'on trouve à la cantine.
Un beau verre de cantine. C'est le verre de la cantine d'Europe 1, ça, absolument, qui est très évasé. Alors, bon, on va vous dire la vérité, on ne boit pas des grands crus, la cantine d'Europe 1. Donc, pour un vin de soif, ça marche.
Pour
ça.
Mettre le nez, c'est plus facile.
Oui, alors vous avez raison, le nez, moi qui ai un grand nez, pour les flûtes, quand je bois du champagne, c'est une galère totale. Je ne sors, mais j'ai même pas. Ça bloque même parfois. Donc, on fait attention au verre, on est d'accord, Mylène de Mongeau?
Tout à fait d'accord. Je peux poser encore une question par rapport au verre? Vous en faites ce que vous voulez. Ces verres-là, ils sont formidables, mais pourquoi est-ce qu'on ne les fait pas courts? Parce que dans la machine à laver, c'est très chiant.
Ah, c'est vrai. Alors, le problème du lavage de verre, évidemment, et puis il y a des taux de casse, etc. Mais parce que c'est esthétique, c'est plus joli d'avoir un pied.
Oui, mais on pourrait quand même le raccourcir un petit peu,
non? On pourrait, mais voilà, je pense que ça fait partie aussi des arts de la table.
Parce qu'à la machine à laver, une fois sur deux, ils sont mal lavés.
Il faut
les mettre à la verticale.
Donc,
et on casse.
Eh ben voilà, merci d'avoir fait avancer le schmilblick sur les verres à vin, Mylène de Mongeau. On va vous découvrir maintenant de l'autre côté de la fourchette avec le questionnaire des bons vivants. Vous êtes prête?
Prêt.
Eh bien, c'est parti. Quel est le goût de votre enfance, Mylène de Mongeau?
En vérité, la pissaladière.
Ah bah oui, vous êtes née à Nice, magnifique.
J'ai une passion pour la pissaladière, la bonne.
Ah oui, les vrais oignons, les anchois.
Pas trop d'anchois quand même, parce qu'après ça sale trop.
Oui, mais qu'est-ce que c'est bon.
Mais qu'est-ce que c'est bon.
Votre plus beau repas, dans le sens inoubliable?
C'est un repas que j'ai fait en Ukraine chez des gens très pauvres qui avaient une vache. C'était les notables du village. Donc, grâce à la vache, il y avait de la crème, il y avait du lait. Et ils ont fait des pilmeni, qui sont des raviolis que faisait ma maman, qui est russe.
Ah.
Et nous avons mangé les pilmeni à la crème. Et après, comme dessert, parce qu'ils étaient très pauvres, à part leur vache, Nous étions 8 et nous avons partagé une orange en 8. C'était le sommet du luxe. Et ça, c'est le plus beau souvenir de ma vie parce que ça, c'est la vraie réalité des
le
gens.
Le partage.
Oui.
Le vrai partage.
Le vrai partage.
Votre pire repas, Mylène de Mongeau.
C'est la honte totale. C'est un repas magnifique. C'est un très, très grand chef étoilé. Et il y avait tout un menu de 5 ou 6 plats. Au premier plat, qui était une soupe aux petits pois extraordinaire, j'ai mangé ma soupe, c'était la meilleure chose. Mes papilles ont mangé la meilleure chose de leur vie. Et après, j'avais plus faim. Donc, par politesse, évidemment, j'ai mangé tout jusqu'au dessert, tout. Et je ne voulais pas de dessert. Elle m'a dit, mais si, il faut que vous goûtez ça, Mylène, et puis ça, Mylène, et puis ça. Je suis rentrée à la maison, j'ai été malade comme
oui,
un chien.
Mais on confond souvent bien, manger et trop manger aussi, parfois. Quel plat emmèneriez-vous sur une île déserte?
Eh bien, j'emmènerai une salade où il y a des tomates, des melons, des olives. Et je mangerai tout ça et je garderai les graines. Et je planterai les graines et ça repousserait.
Eh bien, voilà. On retrouve votre fibre écologique.
Je me suis rendu
là.
Compte de ça, c'est que finalement, les légumes, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Parce que la terre nous donne des légumes, mais ces légumes repoussent. Et la terre est inépuisable si vous faites attention à elle. Elle va vous donner à manger tout le temps. Or, quand vous mangez de la viande, n'importe quelle viande que ce soit, vous mangez du cadavre. Désolé, vous mangez une bête qui a été tuée et il n'y a plus de vie derrière, c'est terminé, il faut en manger une autre. Tandis que le légume, eh ben c'est fabuleux.
Quel est votre mot préféré en cuisine, Mylène de Mongeau?
Goûteux.
Ah oui, c'est bien, c'est un joli
j'adore
mot ça.
Goûteux.
Qui sont les invités de votre dîner idéal?
J'inviterai Michel Onfray avec Perico Légas, avec Alain Dubourg, Bougrain Dubourg et avec Cyrulnik, avec ces quatre-là. Ah je oui. les laisse parler et je me régale.
Il y aura du débat là, ça c'est sûr. Quel est le dernier plat que vous avez cuisiné, Mylène de Mongeau?
Que je vais cuisiner, parce que c'est la saison et je m'offre ça une fois par an. Je vais cuisiner des crêpes et je fais des crêpes à tomber par terre. Mes crêpes sont très très bonnes.
Ah bon, on vient pour...
Je mets de l'eau de fleur d'oranger dedans.
Oh, c'est bien, ça j'adore. On vient chez vous pour la chandeleur alors.
Hein,
et le mot de la fin, FIM?
Oui, bah, ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre.
Exactement. Mangeons un petit peu de tout et retrouvons les plaisirs de l'équilibre.
Ouais.
Merci d'être venue, Mylène de Mongeau. C'était un plaisir.
J'aime bien me parler de bouffe.
Bon, on a vu ça.
Nous aussi,
ça.
D'ailleurs.
Et nous aussi, on aime bien ça. On vous retrouve donc tous les lundis en ce moment dans la série Infidèle sur TF1. Merci beaucoup à la bande des bons vivants, Anne-Laure Femme, Olivier Pouls, Marion Sauveur et Jean-Luc Petit-Renaud. Merci à Lucie Lescourou et Julien Matt à la rédaction, Jean-Luc Arblade à la réalisation, Marie Jacquet à la programmation. Merci aux endives, à la béarnaise, à la béchamel et au calamar à la bastiaise que
beau
nous avons
casting.
Cuisiné. Très beau casting. Les recettes vous attendent sur Europe. C'est le week-end, faites le marché, la cuisine et puis l'amour aussi, hein Mylène?
Hola.
Hola. Bon week-end Justine.
Ah bah donc quel programme, bon week-end Laurent, vous revenez avec votre table des bons vivants samedi prochain à 11h. En attendant la semaine prochaine, vous pouvez réécouter cette émission et puis les autres sur Europe1.fr. Restez avec nous, dans un instant c'est votre journal de la mi-journée avec Fabienne Lemoyle. Bon samedi, il est midi 27 sur Europe 1.